Fréquence protestante, le Midi Magazine, Karine Le Verger.
Bonjour, et nous recevrons aujourd'hui, actualité oblige, sujet grave oblige aussi, nous recevrons aujourd'hui Dominique Louis, co-auteur d'un ouvrage 2050, La France sans carbone. Alors pourquoi avons-nous choisi de traiter de ce sujet aujourd'hui? Comme nous le savons, le GIEC, qui est donc le comité d'experts, a rendu un rapport sur le dérèglement climatique et toutes ses conséquences. Et finalement, la question que nous avions envie de nous poser sur Fréquence protestante, comment l'humanité peut-elle faire face à une demande croissante d'énergie et d'électricité en particulier, sans mettre davantage en danger l'ensemble de son écosystème? Parce que l'équation est la suivante. La production d'énergie devrait croître de 30% d'ici 2040. C'est ce que nous apprenons dans l'ouvrage dont nous allons parler. Si on veut répondre à la croissance démographique et à celle des niveaux de vie, il faudrait qu'elle... Or, donc elle va augmenter de 30% si on veut répondre à toutes ces demandes. Or, il faudrait qu'elle diminue pour pouvoir limiter le réchauffement climatique à 2%.
Du degré.
2 degrés. Nous verrons pourquoi l'énergie... de plus en plus consommée, sous forme, de plus en plus consommée sera finalement une énergie électrique. La demande finale devrait augmenter. Je donne des chiffres parce que les chiffres ne mentent pas. On est obligé de partir de ces chiffres. La demande finale devrait augmenter de plus de 60% d'ici 2040. Alors, à la lueur de ce constat, que faire? Dans ce livre, Dominique Louis, vous nous rendez un tout petit peu optimistes quand même, finalement, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des innovations en cours, des innovations humaines et des innovations techniques. Vous nous révélez également que si l'on fait des choix, et des bons choix, il pourrait y avoir un certain nombre de solutions. Ça n'est pas complètement une impasse. Nous verrons d'ailleurs ce qui se passe en Europe. Ce n'est pas complètement anodin. Le problème de l'énergie à la veille des élections européennes sera forcément au cœur des débats politiques et de société dans les mois qui viennent. Et puis, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est qu'en fait, on va parler des choix du XXe siècle, mais aussi des choix pour le XXIe siècle. Car ce sujet n'est pas un sujet de court terme. Voilà. Et donc, en toile de fond, je voulais juste rappeler deux éléments et deux chiffres importants. Le prix de l'énergie. De sondage en sondage, on s'aperçoit régulièrement que les Français ne sont pas prêts à payer plus cher leur énergie. Alors, est-ce une vraie question? Nous en parlerons. Et le deuxième sujet, derrière, il y a le prix de l'énergie. Et la deuxième question, c'est l'indépendance énergétique. Dans votre ouvrage, on parle beaucoup de l'indépendance énergétique. Par rapport à un phénomène qui est mondial, c'est important de ne pas le sous-estimer. Alors, après ce propos introductif, ma première question... Tout d'abord, je rappelle que vous êtes ingénieur, que c'est important de traiter de ce sujet parce que nous allons être aujourd'hui pragmatiques et non pas dogmatiques sur ces questions. Et la première question, c'est le torchon brûle-t-il? L'ouvrage s'intitule 2050. Est-ce que 2050, c'est bientôt? Et est-ce qu'il faut agir tout de suite ou est-ce qu'on peut attendre finalement 2050 en se réjouissant qu'il fasse beau au mois d'octobre?
Karine, bonjour. Écoutez, c'est évident qu'il faut agir maintenant, mais permettez-moi de commencer par une anecdote. Je suis venu là en taxi et je discutais avec le chauffeur de taxi du beau temps, 25 degrés. Je lui dis, vous rendez compte, le dérèglement, il fait 25 degrés, on est mi-octobre. Il me dit, ah, mais non, c'est formidable. Il me dit, si c'est ça le réchauffement climatique, il dit, moi, je trouve ça parfait. Donc, voilà. Et le problème... C'est un problème de prise de conscience, en fait, parce que au début, il y a quelques années, les gens contestaient que c'était l'activité humaine qui augmentait les rejets de gaz carbonique. Tout le monde, depuis longtemps, on sait que l'effet de serre, que le gaz carbonique est tout à fait, dans l'atmosphère, est tout à fait néfaste pour la planète. Mais au début, il y a des gens qui se sont montrés perplexes en disant « Mais non, mais il y a ça, c'est des grands cycles naturels, etc. La planète a connu beaucoup de phases. » Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est acquis, mais Le problème, c'est que ce sont les scientifiques qui s'expriment. Et les scientifiques, ils parlent en scientifiques, ils disent des choses avérées, vérifiées, mais ils ne sont pas de bons communicants. Parce qu'aujourd'hui, lorsque le GIEC dit « attention, la planète est en danger, parce que d'ici 2100, on risque de dépasser 1,5 degré de réchauffement climatique », mais vous avez des tas de gens qui disent mais on s'en fiche. Mais il fera 1,5 degré de plus. Vous savez, il y a une publicité de la société Engie là, qui est assez formidable. On voit un jeune, comme on en voit aujourd'hui, jouisseur de la vie, et puis il dit « mais le réchauffage climatique, 2 degrés de plus, mais c'est que dalle ». Mais il est tout à fait représentatif d'une grande majorité de la population. Donc, le véritable problème que l'on a, c'est comment est-ce qu'on peut partager des dangers qui d'ores et déjà sont imminents, mais qui seront totalement avérés en 2100, face à une société où, de toute façon, on voit que 12 mois, c'est déjà l'éternité. On demande à nos responsables politiques, au bout de 12 mois, d'avoir des résultats, etc. Et je crois que le plus grand danger, c'est pas qu'on n'ait pas de solution, c'est effectivement c'est le partage, une prise de conscience. Et la difficulté, c'est qu'on partage tous la même terre, mais aujourd'hui, on n'est pas tous dans la même situation. Donc, comment faire en sorte que chacun, j'allais dire, contribue à la protection de la planète avec justice. Parce que est-ce qu'on va empêcher les Indiens de vouloir avoir notre niveau de vie ? Les Indiens disent non, vous voulez bon. Est-ce que toute la difficulté est là. Mais sinon, on va en parler. Techniquement, on comprend très bien ce qui se passe.
Alors, on comprend tellement bien ce qui se passe que toute la première partie de votre ouvrage récapitule, d'une manière très pédagogique, récapitule toutes les sources d'énergie possibles. Donc, il y a l'électricité, il y a le renouvelable, le nucléaire, la biomasse. Enfin, donc, on comprend très bien qu'il y a aujourd'hui toute une palette de solutions qui sont mises sur la table. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire de toutes ces solutions qui sont potentiellement utilisables ?
Alors, lorsqu'on voit l'évolution de nos sociétés, il est évident que l'énergie qui se développe le plus, c'est l'électricité. C'est, j'allais dire aujourd'hui, une industrie où la consommation d'électricité progresse le plus, c'est tout ce qu'on appelle le monde digital. Lorsque vous avez un ordinateur, si vous avez un smartphone... Un smartphone, c'est d'abord un radiateur électrique. Hein. Il chauffe. Alors certes, il vous donne des informations intelligentes sur l'écran, vous téléphonez, mais ça chauffe. Vous envoyez un mail, c'est la consommation électrique. Donc il est évident que l'énergie de ce siècle, c'est l'électricité. Et donc la question est, comment est-ce qu'on produit de l'électricité propre qui ne rejette pas de CO2 ? Donc là, vous avez deux grandes familles, j'allais dire, de sources d'énergie. Appelons-les les énergies continues, c'est-à-dire en France, par exemple, les centrales nucléaires, dans d'autres pays, des centrales à gaz, des centrales à charbon. Ça veut dire qu'on est énergie continue, c'est-à-dire que vous avez un bouton, vous mettez en marche la centrale, vous avez un bouton, vous pouvez l'arrêter. Et puis vous avez les énergies, et vous avez aussi dans ce domaine-là, vous avez par exemple l'hydraulique, les barrages. Et puis vous avez les énergies intermittentes, qu'on qualifie d'énergie renouvelable. Mais le vrai sujet, c'est l'intermittence, donc essentiellement du solaire et de l'éolien. Et là, entre autres, face à, j'allais dire, celui qui a mis à la mode ces énergies, entre autres Al Gore, on nous a expliqué que demain, c'est formidable, on allait pouvoir vivre uniquement avec du solaire et du renouvelable. Et donc, et produire notre électricité comme ça. Et je crois qu'il est important de donner des éléments factuels très simples que tout le monde comprend. On va faire un petit peu d'arithmétique de CM2. Une année, c'est 365 jours. Il y a 24 heures par jour, il y a à peu près 8700 heures par an. Lorsque vous regardez une centrale solaire, en Europe, j'allais dire la France, l'Allemagne, en moyenne... Ça, c'est pas mes chiffres, c'est des chiffres qui sont publics. En moyenne, une centrale solaire produit 1500 heures sur les 8700. Des éoliennes qu'on appelle onshore, c'est-à-dire terrestres, on est probablement autour de 2400 heures sur les 8700. Et si on prend des centrales, soit nucléaires, soit à charbon, on est entre 6000 et 7000 heures. Donc, la conséquence de ça, c'est que si on voulait remplacer une centrale, par exemple une centrale nucléaire, par du solaire, il faudrait surinvestir, il faudrait multiplier par 4 la puissance de la centrale solaire, puisque les 1500 heures multipliées par 4, ça ferait 6000 heures. Mais vous avez un autre souci, qui est qu'elle produit de l'électricité lorsqu'il y a du soleil. Donc on voit tout de suite qu'on est dans un univers où, quand on rentre chez soi, on appuie sur l'interrupteur, on veut de la lumière, on veut que son frigo ait gardé les aliments au frais, on veut démarrer son four. Et en face, on nous met une offre de production d'électricité qui pourrait être aléatoire. Alors, on nous a expliqué pendant un certain temps, mais qu'on allait trouver des solutions, d'abord de réseaux intelligents, mais vous n'allez pas inventer de toute façon l'électricité qui n'existe pas. Et puis qu'on allait stocker ça sur des batteries. Et donc, voilà, on a un monde formidable, c'est-à-dire qu'il y a le soleil, il y a le vent, il y a les batteries, et on peut arrêter tout le reste. Malheureusement, on a induit les gens en erreur en leur faisant croire ça. On sait aujourd'hui que ça ne marche pas. Il y a une démonstration qui est, par exemple, l'Allemagne, qui a investi énormément dans le renouvelable et qui continue à rejeter du CO2. Donc, il faut manifestement travailler sur comment on produit l'électricité, mais également comment on économise l'énergie. Mais économiser l'énergie, ça ne veut pas dire, si vous me passez l'expression, se serrer la ceinture. C'est pas non plus la payer plus cher, parce qu'on a l'impression qu'on se trouve face à un débat de gens qui disent « oui, il faut faire du renouvelable, mais attention, l'électricité va être rare, elle va être chère ». Mais qui peut accepter ça? On voit bien déjà que dans nos pays, dans une économie, les classes moyennes sont durement frappées, et attention à des propos un peu hors sol de gens qui sont... j'allais dire, on voit qu'autour de l'éolien, vous avez surtout les gens des villes qui sont pour les énergies renouvelables, et puis plutôt des gens éduqués, donc il y a des bons revenus. Mais la chance de la France aujourd'hui, c'est d'avoir une électricité pas chère. Comment on fait en sorte de continuer à en exploiter pas cher et de ne pas rejeter du CO2. Donc, si vous voulez, vous avez un choc frontal entre cette vision de l'écologie qui dit en 2100, de toute façon, si on continue comme ça, 1,5 degré, ça peut être des désordres, mais colossaux, de disparition, de centaines de milliers d'espèces. Et puis, vous avez en face l'économie qui, elle, est à court terme. Parce que chaque être humain est un consommateur, c'est aussi accessoirement un citoyen qui vote. Et donc, vous avez une situation qui est bloquée à cause de ça. Et malheureusement, c'est vrai, si vous voulez, dans tous les pays. Le pire, le symbole de tout ça, c'est Trump, les États-Unis, qui a dit « moi, j'ai des chômeurs qui travaillent dans des mines de charbon, j'ouvre à nouveau les mines de charbon. Et le réchauffement climatique, c'est pas mon problème. »
Alors. On voit bien, on a bien compris qu'on avait une priorité qui était l'énergie électrique. En tout cas, vous nous expliquez que les modes de fonctionnement de la société d'aujourd'hui, avec notamment tout ce qui est digital, va nécessiter de plus en plus d'énergie électrique. Il n'y a pas seulement d'ailleurs que le digital, les voitures électriques,
l'industrie qui se robotise, les robots marchent à l'électricité.
Alors, compte tenu de cette donnée qui est la donnée du XXe siècle, on parlera des alternatives plus tout à l'heure, compte tenu de cette donnée, et fort de votre conviction que le torchon brûle un peu, c'est-à-dire qu'il y a quand même des mesures à prendre, quelles sont aujourd'hui les mesures à prendre un peu immédiates qui permettraient de réguler un peu à la fois entre ce besoin de production et les conséquences néfastes de ces besoins?
Alors, c'est effectivement, moi, vous savez la phrase de Chirac, « la maison brûle et on regarde ailleurs », et ça, c'était en 2003. Donc, ça vient de loin. Je crois que la première mesure, mais qui est la plus difficile, c'est cette prise de conscience, parce que on a tous une partie de la réponse dans nos comportements. Simplement, c'est aussi un sujet qui vient percuter les problèmes d'inégalité sociale, et donc on voit bien que c'est, mais pourquoi moi je ferais tel effort? Pourquoi? Il y a quelque chose de frappant, si vous voulez. On a des élites qui explique qu'effectivement, il va falloir, quand même se serrer la ceinture, que l'énergie va coûter plus cher, la taxe carbone. Et puis, vous dites, quand vous dites ça aux gens, vous-même, vous essayez d'être exemplaire au niveau des symboles, quoi. Et alors, un exemple, parce que je le trouve drôle, c'est la superficie, c'est pas son fait à elle, mais la superficie du bureau de la maire de Paris, à l'hôtel de ville, quoi. Quand on expliquait aux gens qui ont des logements de 30, 40 mètres carrés, et puis encore, il va falloir dépenser de l'argent, les isoler, et puis je sais pas combien fait le bureau, c'est pas elle qui l'a fait faire, l'hôtel de ville, mais il doit faire 500 mètres carrés, quoi. C'est aussi il y a peu de temps, un de nos grands comédiens, que j'aime par ailleurs dans ses films, qui s'est commis dans une tribune, je crois, dans Le Monde, sur le tension, le réchauffement climatique. Et puis derrière, on a appris qu'il avait pris son jet personnel pour partir dans une île, je ne sais pas où, quoi. Donc, si vous voulez, on a d'abord tous à être conscients qu'on est coproducteur de cette situation.
Alors, il y a une autre difficulté derrière les exemples que vous citez, c'est que tout le monde a conscience que finalement, ces tout petits gestes, ça ne servira à rien. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais prendre mon vélo et c'est pas parce que j'ai rendu ma smart et que j'ai pris mon vélo que je vais améliorer l'état de la planète. Donc, il y a une inadéquation entre ces éco-gestes au quotidien et le résultat que ça pourrait produire. Et pour ça, finalement, vous avez raison, les ingénieurs et les scientifiques ne sont pas des très bons communicants, parce que quand vous avez, à l'issue du constat qu'ils font, quand vous avez une liste dans laquelle ils disent « ne prenez plus d'avion, recommencez à laver votre linge à la maison, éteignez la lumière », personne ne va rentrer dans cette espèce de logique.
Alors,
donc on fait quoi?
Alors, si on veut regarder des mesures importantes, toujours pareil, l'observation des faits. 70 à 75% de l'électricité de la planète, c'est encore en brûlant du charbon. S'il y a vraiment une urgence, c'est d'arrêter de brûler du charbon. Or, malheureusement, sur la planète, aujourd'hui, toutes les semaines, je crois qu'il y a deux centrales à charbon qui démarrent, essentiellement en Chine, parce qu'ils ont besoin d'énergie. Mais vous avez aussi en Afrique. S'il y a bien un endroit où on pourrait faire de l'énergie solaire, c'est en Afrique. Mais là, vous avez un problème économique. Centrale à charbon, ça se construit vite. C'est pas cher à faire fonctionner. Les Américains redémarrent le charbon. Les Allemands continuent à brûler du mauvais charbon. Donc, si vous voulez, s'il y a une urgence, c'est le charbon. Alors, il faut être réaliste. Une façon d'arrêter le charbon, ce serait de le remplacer, par exemple, par le gaz. Les Allemands, typiquement, on fait le choix du gaz. Les Allemands vont se connecter sur un gazoduc qui vient de Russie et les Allemands vont remplacer leur charbon par du gaz russe. Simplement, les Allemands ont envoyé un très mauvais message. C'est quand ils ont dit l'urgence, c'est d'arrêter le nucléaire. Et en fait, vous apercevez qu'en France, lorsqu'on parle de transition énergétique, les gens vous disent quand est-ce qu'on arrête le parc nucléaire? Vous prenez le rapport du GIEC d'avant-hier, à un moment donné. Comme solution, ils expliquent, entre autres, il n'y a pas que celle-là, mais sur ce sujet-là, parce que ce sujet-là, vous avez des gens qui disent, bah oui, finalement, on a l'impression que certains pensent que c'est le nucléaire qui est la cause de tout ça. Le GIEC dit, il faudrait effectivement multiplier par 500% le parc nucléaire pour avoir une action efficace. Donc, 500% on le fera pas. Donc, ce qui veut dire qu'on peut sûrement quand même consommer mieux, mais je dirais, il faut comprendre une chose, c'est que on parle de nos émissions de CO2, mais déjà, dans cette prise de conscience, il y a une notion qui est essentielle, c'est la notion d'empreinte carbone. C'est quoi l'empreinte carbone? Vous et moi, donc on vit en France, donc effectivement, du sol de France, on émet du CO2, mais on consomme beaucoup de produits. Et tous les produits qu'on consomme, leur fabrication a été, l'occasion d'y mettre du CO2. Donc, toutes ces importations de produits chinois, et donc notre vrai bilan, notre vraie responsabilité, c'est effectivement le CO2 qu'on émet du sol national, mais c'est aussi tout le CO2 qui a été émis à l'occasion de tous les produits qu'on consomme. Donc, rien que ça, si vraiment on avait une prise de conscience de ça, peut-être que on arrêterait de fermer des usines chez nous pour les envoyer en Chine, qui augmentent le déficit, qui créent du chômage, et parce qu'en Chine, effectivement, on a les rejets de CO2. Donc, c'est d'abord cette prise de conscience-là. C'est quoi notre empreinte carbone, notre impact sur la planète?
Nous en parlerons après notre première pause musicale. Vous allez tous reconnaître ce que notre invité a choisi. Il vous en parlera après. Protestante, le Midi Magazine, Karine Leverger. Alors, nous sommes avec Dominique Louis, nous parlons de 2050, la France sans carbone. Nous avons largement commenté le rapport du GIEC et tous les sujets qui sont traités derrière ce problème d'approvisionnement d'énergie. Mais avant de continuer, pourquoi Don Juan de Mozart, qui est le morceau que vous avez, que voilà, nous venons d'entendre
La fin de Don Juan, ben, au-delà de cette musique vraiment qui est fabuleuse, c'est l'opéra que j'ai dû écouter et voir le plus souvent. Je crois que c'est ce qui est frappant, c'est comment le personnage de Don Juan est d'une modernité, mais totale. Parce que ce côté à la fois, je dirais, jouisseur de la vie, hein, au sens large, ce côté, ce personnage qui considère que l'univers, le monde qui l'entoure, est à son service pour son plaisir, son cynisme. Je trouve qu'on croise beaucoup de Don Juan sur la planète. Alors vous avez des Don Juan emblématiques. Moi, quand je pense à Don Juan, c'est Donald Trump, quoi. Bon. Alors.
Oui.
Dans toutes les dimensions, c'est-à-dire que cette forme de cynisme et ce côté, il n'y a pas de vérité. Ce qui est important, c'est d'être cru, quoi. Don Juan, il n'y a pas de vérité. J'utilise les mots, je séduis. Ce qui est important, c'est que je sois cru. Alors, pour moi un personnage antipathique, et pour autant, c'est un personnage qui force mon admiration, justement pour la fin. Parce que là, la fin, il retrouve une dimension humaine, il assume. Il ne demande pas pardon, il assume, et le commandeur voilà, va l'entraîner. Et là, finalement, c'est une espèce de rédemption du personnage. Et on est peut-être beaucoup d'entre nous des Don Juan dans la façon dont on jouit de la planète. Mais il faut l'assumer.
Alors, merci pour ce choix. Et nous allons maintenant avoir quelques minutes d'optimisme. Puisque finalement, il existe des solutions. Il existe des solutions qui peuvent être humaines, qui peuvent être technologiques. Et il existe... Et il y a une alerte que vous nous indiquez dans votre ouvrage et dont nous avons parlé, et qui est le phénomène de la gabegie. Vous dites beaucoup sur la partie humaine et même technologique, qu'il y a quand même une alerte quelque part, qui est comment est-ce qu'on évite la gabegie, y compris sur ce sujet-là.
Lorsqu'on regarde les grands postes, j'allais dire, de consommation d'énergie, bon, il y en a un que tout le monde connaît, c'est par exemple la mobilité, la voiture. Donc aujourd'hui, les ingénieurs ont des solutions à la fois avec la voiture électrique. Alors quand on dit voiture électrique, d'ailleurs, elle a deux composantes. C'est la voiture 100% électrique, batterie plus un moteur, et la voiture hybride. Hybride rechargeable, etc. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on sait faire des véhicules qui vont quasiment n'avoir aucune émission de CO2 ou en avoir très peu. Mais il faut rester conscient quand même que la fabrication de la voiture électrique a généré beaucoup de CO2. Une batterie, la fabrication d'une batterie, c'est une industrie qui est polluante et qui génère du CO2. Donc, se dire « j'ai une voiture électrique, voilà, ça y est, j'ai fait ma BA pour la planète, et qu'on m'embête pas sur le reste », non, c'est un des axes. En plus, vous avez des messages qui sont contradictoires. C'était hier soir, il y avait Luc Châtel qui était interrogé, parce qu'il est le président de la plateforme automobile, où en fait, à tort, on a fait du diesel un bouc émissaire, alors que les diesels aujourd'hui sont probablement moins polluants que les voitures à essence et consomment moins. Mais aujourd'hui, on a mis dans la tête des gens que de toute façon, le diesel, c'était mort, c'était fini. Donc, pourquoi les émissions de CO2 dans le transport en France particulier ont augmenté? Parce que les gens ont abandonné le diesel, sont allés vers l'essence. Conséquence immédiate, on augmente les rejets de CO2. Donc, si vous voulez, les solutions existent, mais il faut être extrêmement rigoureux dans l'information qu'on donne. Le problème du chauffage. C'est évident que la solution vers laquelle on va, c'est chauffage à électricité. Alors, ça peut être pompe à chaleur, radiateur à inertie, il y a des solutions. Et des logements mieux isolés. Mais attention à ne pas mettre des normes ingérables. Vous avez une norme qui s'appelle l'ERT 2012 pour l'isolation des logements, où des gens ont dit, il faut, voilà, l'objectif, c'est 50 kWh par an par mètre carré de bon. Lorsque vous discutez avec des promoteurs immobiliers qui font de la rénovation, ils vous disent la norme, de façon opérationnelle, elle est inatteignable. Donc qu'est-ce qu'on fait? On installe un système de chauffage qui respecte la norme et on dit aux gens qui achètent l'appartement ou la maison, eh ben, vous rajouterez des radiateurs si vous avez froid. Donc si vous voulez, il faut partout enlever du dogme, mais il y a effectivement beaucoup de solutions techniques. Alors, il reste un sujet qui sera adressé, qui est l'agriculture, effectivement. Il ne faut pas se cacher aussi que c'est un domaine que je connais moins bien, mais les rejets de méthane par l'élevage, c'est un vrai sujet. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter l'élevage, mais ça veut dire que partout où on peut trouver des solutions, on peut les trouver. Moi, je crois à une technologie du futur qui est l'hydrogène. Je pense que l'hydrogène, mais là aussi, il n'y a rien de miraculeux. L'hydrogène, faudra le produire. Si vous voulez. L'hydrogène derrière, donc, permet avec une pile à combustible de fabriquer l'électricité et donc devrait permettre demain. D'ailleurs, dans Paris, il y a une société de taxi qui a déjà quelques véhicules hydrogène. Mais généraliser l'usage de l'hydrogène, par exemple, à la place de l'essence, il y en a pour 40 ans, ou 30 ans, parce qu'il va falloir comment les stations, où est-ce qu'elles vont être, etc. Donc, si vous voulez, on voit qu'il y a des solutions qui vont prendre du temps. Et donc, il ne faut pas sans arrêt, vous voyez, il va falloir faire des choix, et ces choix s'y tenir. Donc, mais après, vous avez même pour la production d'électricité, j'allais dire de façon intensive, bon, c'est un sujet qu'on connaît un peu, c'est effectivement la maîtrise de la fusion, qui consiste à fusionner de l'hydrogène pour fabriquer de l'hélium. Et ça libère beaucoup plus d'énergie que le fait de casser des atomes d'uranium. Il n'y a pas de déchets. Simplement, c'est d'une complexité aujourd'hui qui est à la limite de ce que la science humaine sait faire. Donc il y a aujourd'hui un grand projet qui s'appelle ITER, qui est un projet de recherche, et qui, s'il aboutit sur des solutions industrielles, c'est fin du siècle. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut gérer tout le 21e siècle, avec encore probablement, j'allais dire, un maximum de renouvelables, hein, parce qu'il faut développer le renouvelable. Mais si on parle du solaire, moi, ma conviction, c'est que le solaire, c'est une solution locale indépendante. C'est-à-dire que si on met tous, chaque fois qu'on peut, on met des panneaux solaires sur nos maisons, et puis avec éventuellement une batterie derrière, mais on reste quand même connecté au réseau, voilà une façon effectivement de diminuer la consommation d'électricité, voire nucléaire, venant du charbon. Moi, je suis beaucoup plus sceptique sur les immenses fermes solaires. Si vous voulez, on va occuper des terrains. En plus, vous avez un autre problème sur le solaire. C'est qu'aujourd'hui, les panneaux solaires sont chinois, quoi. Donc, ça veut dire qu'on n'a quand même pas bien géré industriellement nos filières. Et que malheureusement, la seule filière, de fait, la filière énergétique qu'on a bien suggérée, c'est la filière nucléaire. Pourquoi ? Parce que des gens l'ont décidé dans les années, début des années 70, et puis s'y sont tenus quasiment jusqu'à la fin des années 90. Quoi. Donc voilà, donc les ingénieurs ont des solutions et de quoi être optimistes, mais il faut que nos élites politiques expliquent bien, montrent bien le chemin pour que tout le monde adhère. Brûler du bois aujourd'hui, la biomasse, je considère que c'est une erreur de subventionner des chaudières à charbon. Parce que, alors on nous explique que mais finalement le bois qu'on brûle, on va le replanter derrière. Parce qu'effectivement, le bois, cette qualité, c'est de piéger le CO2. Simplement, quand vous brûlez un arbre aujourd'hui qui a 30 ans ou 40 ans, il a piégé du CO2 pendant 30 ans. Demain, vous allez en planter un nouveau qui va faire 30 cm de haut, il piégera du CO2 dans 30 ans. Donc ça ne marche pas. Par contre, le bois, aujourd'hui, a probablement un usage avec une plus grande valeur ajoutée dans la construction, dans l'isolation. Mais arrêtons d'encourager le fait de brûler du bois.
Donc en gros, l'idéal, le mix énergétique dont on parle beaucoup, qui est de coupler différentes sortes de production d'énergie, ce mix énergétique, finalement, l'idéal, ça n'est pas de tout cumuler, de dire je vais faire un peu de ceci, un peu de cela, un peu de cela, non. Parce qu'au fond, on cumule tous les inconvénients.
Exactement.
Donc ça nécessite de faire des choix, j'ai bien compris votre...
Voilà, et le choix, c'est comme la responsabilité des politiques.
C'est quand même la responsabilité des politiques.
Parce que le choix, comment est-ce qu'il est instillé dans la population, c'est avec des impôts ou des bonus, quoi. On voit bien comment ça marche. On supprime l'aide au diesel, ça a aidé les gens aussi à abandonner leur diesel. Et attention à ne pas faire profiter de ça pour faire que des impôts nouveaux, quoi. La taxe carbone, c'est logique. C'est-à-dire que pour empêcher des produits fabriqués en Chine où on rejette énormément de CO2 et avoir des produits pas chers, elle a sa logique, à condition qu'elle serve à réimplanter ces industries en France en utilisant un process qui ne rejette pas de CO2. Et je crains que ce soit uniquement une taxe.
Est-ce qu'il n'est pas normal à cette étape du problème, est-ce qu'il n'est pas normal finalement d'hésiter un tout petit peu et de tâtonner en sachant finalement vers quelle filière est-ce que je vais m'orienter, vers quoi est-ce que mettre les priorités, en sachant que derrière il y a tout un enjeu que vous avez évoqué qui est l'enjeu de développer une filière industrielle sur la base d'un choix stratégique qui a été fait en amont.
Alors malheureusement, lorsque vous regardez les préoccupations des politiques, ils ont quand même des horizons de temps qui sont en mois ou au mieux en années, et que donc à un moment donné, c'est de faire l'inventaire des forces en présence d'un point de vue politique. Et si vous avez besoin de tels lobbies, alors que ce soit le lobby des chasseurs, le lobby des verts, tout ce que vous voulez... Le politique va faire ce genre de compromis. Et comment prendre des décisions qui impacteront 2100 ? Regardez aujourd'hui, ça n'a rien à voir, mais c'est le même type de sujet, la réforme des retraites. Quand on dit que ça impactera dans 30 à 40 ans, effectivement, il faut un vrai courage politique pour aujourd'hui prendre des décisions qui auront un impact à 30 à 40 ans. Ben là, on parle de la fin du siècle.
Donc nous allons poursuivre ce débat après la prochaine pause musicale. Et là, c'est notre invité qui vous expliquera, car c'est son choix, pourquoi nous avons choisi ce morceau. Mais je pense que vous devinerez...
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Karine Le Verger.
Pour ceux qui nous rejoignent, nous parlons de la France sans carbone, vaste sujet, avec Dominique Louis, co-auteur d'un ouvrage, 2050, la France sans carbone. Mais avant, un petit commentaire sur notre passage musical.
Alors, c'est une musique que j'ai... Enfin, ou quasiment que j'ai découvert il y a quelques jours, à l'occasion des obsèques aux Invalides de Charles Aznavour, où à un moment donné, lorsque le cercueil est amené, il y a mais qui m'a bouleversé, quoi, qui donne la chair de poule, et c'est un instrument arménien, et vraiment, ça a une force considérable sur le côté dialogue des cultures, dialogue des civilisations. Comment est-ce qu'on peut être en conflit? Comment est-ce qu'on peut être, quand on entend ça, comment l'humanité a pu créer des sons pareils? C'est un instrument, comme vous le voyez, très simple, vraiment très difficile à jouer. Et je veux dire que c'est d'une beauté absolue. Et je suis pas un spécialiste du tout des musiques, mais c'est vraiment d'une beauté universelle, quoi. Je pense que ça, tous les gens qui l'ont entendu ont forcément été touchés. Et c'est quelque part, c'est réconfortant à condition que qu'on détruise pas tout ça.
Alors, sur l'enjeu de la planète, quand vous avez fait ce choix musical, vous nous expliquiez que c'était une musique qui pour vous évoquait à la fois l'Asie, à la fois plein de continents. Donc c'était quelque chose qui était, on parle d'un phénomène mondial. Et nous ici sur Fréquence Protestante, ça nous a donné l'occasion de faire un coup de chapeau à Charles Aznavour et un coup de chapeau à la francophonie. Ça fait beaucoup de coups de chapeau, mais finalement ça valait le coup. Voilà. Donc merci pour ce choix. Ça me permet d'embrayer sur le dernier sujet qui est un sujet, à mon avis, fondamental sur ces questions, qui est dire la vérité, dire les faits, rappeler en permanence ce que sont les choses, sans dogmatisme et sans maquillage. Il y a un peintre que vous aimez beaucoup qui dit quelque chose.
Oui, c'est Bram Van Velde qui dit la vérité est comme un soleil qui nous aveugle, quoi. Et il rajoute, et pourquoi la vérité est-elle toujours si bien cachée?
Et donc, cette vérité, vous y tenez, parce que finalement, tout votre ouvrage, il est basé sur des faits concrets.
Oui.
Et donc, pour vous, le fondement des bons choix qui seront amenés à être pris par les dirigeants, le fondement des bons choix, c'est de partir de ce principe-là,
fondamental. Voilà, c'est de partir des faits. Et malheureusement, et pour revenir à Donjement, trop souvent... on a l'impression qu'en particulier nos élites, parce qu'il faut pas avoir peur de les pointer comme responsables, après ils doivent l'assumer, c'est que ce qui compte pour eux, c'est pas de dire la vérité, c'est d'être cru. Et c'est plutôt quelle vérité dois-je dire pour atteindre mon objectif. Et on est en plein dans le sujet, là. Alors, après, la vérité, elle peut être complexe. On parlait avant un auteur que j'aime beaucoup, Luigi Pirandello, qui a écrit à chacun sa vérité. C'est-à-dire que sur les mêmes faits, des gens qui ont un regard différent, qui ont sur les mêmes faits vont déduire des vérités différentes. Donc, c'est effectivement la vérité, c'est dit comme ça, c'est soit inaccessible, soit un peu naïf. Pour autant, la vérité est basée sur des faits, sur des mesures, c'est-à-dire la vérité de l'ingénieur, du scientifique, qui mesure que, voilà, à tel endroit, la température est de temps, qui dit, voilà, je mets ça sur la table, à telle époque, il y a un siècle. Au moins, on peut partir de cette vérité-là, et puis les gens font des propositions, le GIEC fait des propositions, mais une fois de plus, ce sont les politiques qui vont décider. Et le problème, c'est qu'on vit dans un monde où les experts sont de plus en plus dévalués. C'est que, et je pense que ce côté zapping, ce côté chaîne de télévision permanence, réseaux sociaux, où de toute façon, tout le monde veut comprendre en 5 minutes un sujet, vous faites venir un expert de l'énergie, du GIEC, une chaîne de télévision, ben ça passe pas. Parce qu'on lui donne 5 minutes, en 5 minutes, il a même pas présenté le début de ses hypothèses. Donc, on a ce sujet-là. Il faut une élite qui, effectivement, ait envie de dire la vérité, qui passe du temps avec les experts, qui comprennent ce que disent les experts, et que l'élite, parce qu'il est là pour ça, il sait parler, j'allais dire, aux autres, il sait faire un message, il sait être communicant, mais il n'en profite pas pour tordre les faits à son profit.
Alors, pour prendre un tout petit peu la défense des politiques, on peut dire qu'ils ont en face d'eux un phénomène d'une telle complexité que probablement les choix sont difficiles à prendre et surtout, ils sont dans une échelle de temps, vous l'aviez dit tout à l'heure et je crois que c'est important de comprendre, ils sont dans une échelle de temps. Je reviens à la question de base, si le torchon brûle, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils aillent vite, alors qu'en fait, les bonnes solutions sont des solutions, on l'a bien vu avec vous, sont des solutions pour le 21e siècle. Donc il y a probablement un petit exercice compliqué.
Alors, on peut rester optimiste, parce que lorsqu'on dit le torchon brûle, on a du temps. Simplement, le risque, c'est qu'il y ait déjà des évolutions qui, elles, soient irréversibles. C'est-à-dire que si les gens pensent que, bon, la Terre se réchauffe de 2 degrés, mais c'est comme ma casserole sur le feu, j'attends qu'elle refroidisse et tout va bien, la planète, ça marchera pas comme ça. Donc, en fait, on dit que le torchon brûle, parce que peut-être, et le GIEC le dit bien, il y a déjà des phénomènes induits qui, demain, vont accélérer la disparition d'espèces. On voit bien que la quantité de biomasse, c'est-à-dire de forêt qui peut absorber le Donc on produit de plus en plus de CO2 et en plus la forêt disparaît. Donc il y a de quoi être optimiste parce qu'on a du temps. Ce qui rend pessimiste, par exemple, c'est quand vous voyez le Brésil, quoi. C'est-à-dire vous avez l'Amazonie au Brésil et les Brésiliens sont en train d'élire un président qui explique que de toute façon, il va raser une partie de la forêt pour faire des routes, des villes, etc. C'est leur bien aux Brésiliens. C'est aussi un bien de toute l'humanité, mais ils sont les premiers concernés. Donc si vous voulez, c'est douche... Chaud et froid, quoi, en même temps.
Alors, c'est important parce que c'est le dernier volet dont on aura le temps de parler ce matin. Le dernier volet, c'est l'aspect international. On s'aperçoit que finalement, tout est interdépendant. Tous les pays sont interdépendants les uns des autres. Donc, ça a un petit côté un peu anxiogène. Parce que qu'est-ce qui se passe si le pays d'à côté... Et puis, vous avez des phénomènes comme, par exemple, les investissements qui sont faits en Chine, avec les terres rares, qui fait que la Chine, sur un certain nombre de sujets, va devenir leader mondial. Il y a quand même toutes des interdépendances. Comment faire un peu le tri entre les choix qui sont faits par les uns et par les autres? Mais à la limite, tout le monde n'est pas obligé de faire le même choix au même moment.
Non, parce que tous les gens sont dans des situations différentes. La Chine, moi, je ne critique pas la Chine, parce que la Chine développe beaucoup d'énergie renouvelable. Ils font du nucléaire, ils font des barrages. Mais parce qu'ils sont frappés par la pollution. Si vous allez à Pékin, c'est terrible. Moi, je me souviens être allé aussi en Corée du Sud. Il y avait une espèce de brouillard jaune. Ils nous expliquaient que c'était les vents qui ramenaient des fumées de Chine. Donc, ils commencent à le vivre dans leur chair. Simplement, entre la démographie et puis l'évolution du niveau de vie, ce fameux taux de croissance, j'allais dire, ils courent après une situation qui se dégrade. Donc... vous avez l'Inde qui derrière, mais par contre l'Europe, c'est quand même ne pas avoir trouvé une harmonisation au niveau de l'Europe, c'est dramatique. Voir qu'au contraire on s'en éloigne, c'est dramatique parce que finalement, si vous regardez trois pays, vous prenez l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, en 2050, en gros ce que disent les démographes, les trois pays auront à peu près 75 millions d'habitants, c'est-à-dire que la population aura diminué en Allemagne. On ne sait pas ce que sera l'immigration d'ici 2050 en Allemagne, mais donc il y aura 75 millions d'habitants dans les trois pays. Vous voyez que les trois pays ont des options assez différentes. Les deux pays qui ont des options plus proches sont la France et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, en gros, prend une direction qui est un tiers de nucléaire, un tiers de renouvelable, un tiers de gaz. On voit que l'Allemagne prend une direction qui va être essentiellement du gaz et du renouvelable. Et en France... a priori, on ne va pas lâcher la proie pour l'ombre, on ne va pas arrêter nos centrales nucléaires pour faire du gaz. Donc la France restera de toute façon avec un parc nucléaire. Et ça, c'est dommage parce qu'il n'y a pas de mise en commun. Finalement, dans toutes ce que savent les ingénieurs, c'est qu'il y a des risques dans tout. Le vrai sujet, c'est la maîtrise des risques. Est-ce qu'on sait maîtriser les risques? C'est-à-dire, aujourd'hui, le CO2 dans l'atmosphère, on n'y peut rien. On n'a pas de technologie qui nous permette de régler le sujet. Vous prenez, parce que parlons franchement, vous prenez un accident comme Fukushima. D'abord, Fukushima, c'est 25 000 morts du tsunami. L'accident nucléaire, bon, c'est un désastre économique, mais vous n'avez pas de victimes. Aujourd'hui, tout doucement, ils sont en train de, j'allais dire, de reprendre possession du site. Et on voit bien que c'est à la portée du savoir-faire des ingénieurs aujourd'hui de maîtriser un accident comme Fukushima. Donc, moi, quand je mets en balance, j'allais dire, ma conviction qu'effectivement, le dérèglement climatique, c'est quelque chose de grave, parce que, c'est-à-dire que ça peut faire disparaître la vie sur Terre, mais c'est quelque chose de grave dans la disparition d'espèces, dans l'émergence de maladies, versus tous les inconvénients qui sont réels du nucléaire. Je dis, malheureusement, il n'y a pas de solution parfaite. Quel choix fait-on ? Donc, soit c'est effectivement, je vous disais en aparté, je dis finalement, moi, je comprends le choix des zadistes, quoi. Je suis zadiste, je dis non, ça, je refuse tout, et puis je me lave quand il pleut. Bon. Si on caricature, si on pousse... Bon, manifestement, sur la planète, on voit bien que chaque fois, tous les gouvernants promettent plus de confort matériel à leur population. Donc, ce ne sera jamais la direction. Donc, faisons les choix en fonction de ça. Et effectivement, c'est ce que vous dites, c'est... Quel est le risque le plus important ? Il n'y a pas de solution parfaite. Aujourd'hui, avant, on nous disait un médicament, c'est bien, ça soigne ça. Aujourd'hui, on vous dit un médicament, il y a des inconvénients et des avantages. Si les avantages sont supérieurs aux inconvénients, c'est un bon médicament. Mais... Tout est comme ça. Et cette problématique de l'énergie, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de solution parfaite, il y a des choix à faire, il n'y a pas le bon choix, les mauvais choix. Mais par contre, il faut faire des choix qui contribuent effectivement, qui aillent dans le même sens, qui est de réduire ces émissions de CO2, parce que la connaissance qu'on a aujourd'hui, c'est que ce CO2 dans l'atmosphère nuisible, et on ne sait pas comment s'en débarrasser.
Est-ce que la première étape, c'est pas, et ça sera malheureusement notre dernière question, puisque nous arrivons au terme de notre émission, est-ce que finalement, il y a la première étape, c'est pas à l'échelle européenne de commencer à réfléchir à prendre une décision
bien
à
sûr,
l'échelle européenne.
Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a une solidarité européenne qui va se faire obligatoirement parce qu'on voit déjà que certains pays risquent de manquer d'électricité et va y avoir on va se vendre ces champs d'électricité. Mais ce n'est pas suffisant. Et simplement, si vous prenez l'axe européen franco-allemand, s'il y a bien un domaine où on est totalement orthogonal, c'est bien celui de l'énergie et de l'électricité. Donc, c'est un sujet qui n'est pas simple. Mais effectivement, ça commencerait par là.
Alors, au niveau... Qu'est-ce que vous diriez, finalement, si vous aviez en face de vous une classe de jeunes de 15 ans, vous leur diriez quoi par rapport à tous ces sujets sur le comportement ? Vous ne pouvez rien faire, donc restez passif et surtout continuez à consommer ?
Non, c'est... Soyez conscients... que votre consommation impacte la planète. Ne culpabilisez pas par rapport à ça.
Très important.
Mais voilà, les données sont celles-ci. Et après, moi, j'ai confiance en l'humanité, j'ai confiance en la jeunesse pour le fait que vous aurez des comportements responsables qui feront qu'effectivement, on épargnera la planète. Et probablement qu'ils le feront beaucoup plus facilement que moi aujourd'hui, je suis en mesure de le faire, ayant vécu sans cette préoccupation. Et il y a un sujet qu'on n'a pas abordé aussi, qui est la dépendance énergétique, qui dans un monde, effectivement, où il y a beaucoup de risques, de menaces, c'est un vrai sujet.
C'est un sujet qui n'est pas complètement nouveau, l'indépendance énergétique. Tous les grands choix par tous les États sont faits en fonction de ce critère-là. Comment être indépendant énergétiquement. C'est fondamental aujourd'hui ?
Ouais, j'allais dire que Donald Trump n'est pas mon idole, mais quand Donald Trump a dit à Angela Merkel, dans ses mots à lui, qu'il déplorait, mais il était plus... Le fait que l'Allemagne se remettait entre les mains de la Russie pour sa production d'électricité via le gaz russe, C'est un choix. La France, traditionnellement, a fait le choix d'une indépendance énergétique avec le nucléaire. On voit que la consommation d'hydrocarbures repart, avec le pétrole est à nouveau à 80 dollars, ce qui permet aux pétroliers de continuer à explorer, parce que 80 dollars, ça vaut le coup. Et on voit que les pays, les zones productrices de pétrole, restent des zones quand même sensibles.
Merci beaucoup, Dominique-Louis, pour cet entretien. Je rappelle votre ouvrage « 2050, la France sans carbone », publié aux éditions Fayard. Merci et à bientôt.